Bon matin à tous. Étudier la parole de Dieu, un texte qui m'a parlé, un texte qui a été fort dans ma vie. Je veux vous amener dans une prière, dans une louange à l'Éternel pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. On a chanté beaucoup de chants de louange ce matin, j'ai beaucoup aimé. Je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous êtes capable de vous rappeler ce qu'a été votre réaction, votre action, la dernière fois que vous avez vécu une difficulté, quelque chose de vraiment difficile, une situation qui vous a vraiment déstabilisé, une épreuve? Je vous donne 2 secondes pour réfléchir. Est-ce que vous avez crié? Est-ce que vous avez chanté? Est-ce que vous avez lu votre Bible? Avez-vous fait du sport pour faire sortir le méchant? Est-ce que vous êtes jeté par terre, vous avez fait une crise de bacon? Bon, on est des adultes, je pense pas. Est-ce que vous vous êtes écrasé? Vous saviez plus quoi faire? Est-ce que vous avez parlé avec quelqu'un? Il y a beaucoup de façons de réagir à une situation qui sort de l'ordinaire. Et d'une situation à l'autre, ça se peut qu'on n'ait pas toujours la même réaction. Le texte qu'on va regarder ce matin, son contexte est vraiment particulier. Du fait que l'auteur l'écrit lors d'une situation fâcheuse, vraiment, quand on va le regarder, c'est une situation difficile dans sa vie. Ce matin, je ne veux pas vous dire, bon, la réaction que vous avez eue l'autre fois, c'était pas la bonne, puis maintenant, vous allez avoir la bonne façon de réagir. Non, je veux vous donner plus d'opportunités de ressembler à Christ. Je veux vous amener à pouvoir vous préparer pour ce que Dieu amène dans votre vie. Je veux que la parole de Dieu puisse transformer votre cœur. Ce que je veux vous apporter est un regard sur l'épreuve qu'un héros un héros biblique a eu. Et comment nous pouvons devenir plus comme Dieu veut que nous réagissions. Je vous partage ce texte parce qu'il m'a personnellement aidé lors d'une épreuve que j'ai vécue dans ma vie. Je vais être honnête avec vous, l'épreuve n'a pas été moins difficile. Et c'est souvent un peu ce qu'on pense qui devrait arriver. Mais là, je m'attache à Dieu, je lis sa parole, j'ai la bonne réaction. Pourquoi l'épreuve n'est pas moins difficile? L'épreuve ne sera pas moins difficile, mais j'ai la certitude que Dieu m'a accompagné à travers de celle-ci. Lisons le psaume 34 ensemble. Vous pouvez tourner avec moi dans le psaume 34. J'entends encore des bonnes vieilles pages qui tournent. Un beau son. La Bible, bon, peut-être que vous êtes un lecteur puis vous aimez encore lire dans un livre avec des pages, ça se peut. Mais bon, nous sommes à l'ère numérique et je ne dis pas que c'est mal. Et moi, maintenant, tout se passe sur un téléphone. Et c'est correct, on trouve bien les choses, on recherche bien les choses. Mais pour la Bible, j'essaie de faire mon culte personnel dans une Bible papier, de pouvoir souligner, pouvoir retourner. Je vous partage ça en parenthèse. Psaume 34, de David. « Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. » « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa bouche sera toujours dans ma bouche, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. » Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent dommage, d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie? Qui aime le long jour, de longs jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les arrache à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'en est brisé. Le malheur fait mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont condamnables. L'Éternel libère l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échapperont à la condamnation. Amen. Prions. Papa Céleste, on vient devant toi pour que tu ouvres notre esprit, que tu ouvres notre cœur, que tu nous transformes. Seigneur, ce matin, je veux que ce soit tes paroles qui puissent être entendues. Dirige notre moment d'instruction, Seigneur. En ton nom. Amen. Ce matin, je veux essayer d'être le plus pratique que possible. Peut-être que vous allez dire, finalement, t'as manqué ton coup, ça se peut. J'essaye, OK? Je vais essayer d'être pratique avec vous, de vous donner quelque chose que vous pouvez facilement, tangiblement utiliser. Mais je veux quand même commencer par vous donner un peu d'informations sur le contexte de ce chapitre. Lorsqu'on lit un psaume, le contexte peut venir de deux places. Le premier verset, le premier ou le titre qu'on appelle, et le deuxième vient de son contexte lui-même. Le contexte de ce psaume, c'est un psaume de sagesse. Vous dites, psaume de sagesse? Il me semble qu'on a les proverbes pour ça. Ben oui, dans les psaumes, on a des psaumes de sagesse. Il faut savoir que c'est pas... Il y a de la sagesse dans différentes places dans la Bible. Et, entre autres, dans les psaumes. Les psaumes sont aussi considérés pouvant apporter une sagesse pratique. Ce psaume est appelé aussi un poème alphabétique. Chaque verset va débuter par une lettre de l'alphabet hébreu. Également, en poésie, même en poésie hébraïque, les versets sont comptés par leur longueur. Ce matin, on ne va pas étudier l'hébreu. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas du tout versé dans l'hébreu. Donc, le fait que les premières lettres sont utilisées, que le nombre de pieds, ou ce n'est pas le but de notre étude ce matin. Il y a sûrement quelque chose à apporter dans cette idée-là, mais ce ne sera pas ce qu'on va regarder ce matin. Nous pouvons également placer ce psaume dans l'histoire de David. C'est dans 1 Samuel 21, le verset 10 à 16. Et je vous lis, c'est un peu... Vous allez comprendre un peu après ça le contexte. Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée du Philistin Goliath. » Ah, là, on commence à placer là, les images. Vous voyez, là, coupe, coupe, coupe. Okay. Que tu as tué dans la vallée de Hela. Elle est enveloppée dans un vêtement derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la. Car il n'y a point d'autre ici. David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. David se leva et prit la fuite le même jour devant Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on entonnait et dansant? En dansant, Saül a frappé 6 000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il contrefit l'insensé sous les yeux, leurs yeux et fit des extravagances parmi eux. Il faisait des marques sur les battants des portes et laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit au serviteur, vous voyez bien que cet homme est fou. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci faire ses folies devant moi? Celui-ci va-t-il entrer dans ma maison? Donc, ça, c'est le contexte du psaume 34. Un peu, vous allez dire, oui, effectivement, c'est un peu bizarre. Mais c'est le contexte difficile que David vit. Il vient de tuer Goliath, et là, il se retrouve devant le roi Achish, et là, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, donc il a peur, et pour s'enfuir, il fait le fou. Il fait comme s'il n'était pas normal. Hein? Il dit même qu'il a laissé couler sa salive sur sa barbe. Un peu dégoûtant. Donc, le titre de ce psaume dans la version du Semeur est intéressant. Dans un psaume de David, lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimélec, qui le chassa de sorte que David pût s'en aller. Donc, on voit un peu le contexte qui vient avec ce passage. Donc, David est fait face au roi Achish. L'explication, maintenant, si vous avez écouté, et entre le titre et Samuel, ça dit le roi Achish, et dans Samuel, et dans Psaume, on dit Abimélec. Là, vous dites, est-ce que c'est trompé? Non, ils ne se sont pas trompés. Ce que les explications donnent, c'est que le nom Abimélec était assez commun et que ce que ça veut dire, c'est « mon père est roi ». Donc, l'auteur du titre aurait voulu utiliser tout simplement un titre au lieu du nom du roi Achish directement. David est dans une situation fâcheuse. Il va s'en sortir en faisant inhabituellement en sorte de se jouer du roi. Et c'est là qu'il va écrire ce texte. Donc, voici le contexte de ce psaume. Je vous accorde qu'il est vraiment, vraiment bizarre. Et pourtant, lorsqu'on étudie ce texte, il est plein de bonnes instructions. Donc, j'ai divisé un petit peu le texte en trois parties. La sagesse pour ma vie. Excusez, la louange à l'Éternel. La sagesse pour ma vie. Et on va terminer avec le résultat de cette sagesse pour ma vie. Les versets 1 à 8. « Je bénirai en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie. » Et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Dans cette partie du texte, nous pouvons voir encore deux parties, les versets 2 à 4 et les versets 5 à 8. La première partie nous raconte comment David s'est approché de l'Éternel dans une forme de vœu. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un vœu à l'Éternel. Bon, ce n'est pas très commun faire un vœu. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Bon, lorsqu'on fait un vœu, c'est un engagement à accomplir quelque chose sans arrêter de le faire. L'Éternel, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc, David fait ce vœu à l'Éternel d'être en train de toujours le louer. Lorsque j'ai dit mes vœux le jour de mon mariage, j'avais 22 ans. J'étais peut-être plus jeune que même. Est-ce que je savais exactement tout ce que ça allait impliquer? Non, je l'ai dit et que j'allais aimer Amélie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Par la grâce de Dieu, j'ai tenu ce vœu jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on prend un engagement, nous devons tenir cet engagement. Il veut dire quelque chose. Sinon, ne prenons pas d'engagement. David prend un engagement très fort de louer son Dieu. Il prend l'engagement de le faire en tout temps. Quel bel exemple David nous montre ici par la façon dont il commence ce psaume. Il ne commence pas en se plaignant ou en sortant la liste d'épicerie de requêtes, quelque chose qu'on fait souvent. On a tendance des fois à faire cela. Je crois que nous avons des fois cette idée que lorsqu'on se présente devant Dieu, il est peut-être un pourvoyeur plus qu'un Dieu. Pourtant, David ne vit pas un bon moment. Il vient d'échapper au roi des Philistins. Il a dû faire semblant d'être fou. Mais malgré cela, il vient devant l'Éternel et commence par dire qu'il veut le bénir en tout temps. Les prochains versets sont l'explication de ce vœu, de cette louange de David. Quelle puissance, quelle exaltation de l'Éternel! Il commence par une phrase qui semble être orgueilleuse. « Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Que mon âme se glorifie. Mon âme se glorifie. » Donc, c'est comme s'il était un peu orgueilleux. Mais finalement, hein, qu'est-ce qu'on voit? Mais cette phrase-là, finalement, c'est pour élever son Dieu. Il nous montre que la gloire véritable est seulement à travers l'Éternel pour ce qu'il a fait. Ensuite, il passe à l'action dans une louange à l'Éternel. Il utilise des mots puissants, magnifiés, exaltons. Ces mots sont à la base utilisés pour rendre quelque chose plus grand. Un objet, on magnifie un objet pour le rendre plus grand. Lorsqu'on utilise un microscope, on magnifie l'objet et il devient plus grand. Mais quand on y pense, est-ce qu'on peut magnifier Dieu? Est-ce que moi, être humain, je peux magnifier Dieu? Évidemment, l'humain ne peut pas rendre plus grand Dieu. Grand Dieu est déjà le plus grand. Il possède déjà toutes les caractéristiques de la perfection. Alors, ce qui est développé ici est plutôt le fait d'exposer la grandeur de l'Éternel. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devrions toujours avoir cette révérence de le louer. Ce matin, on a chanté plein de choses qui louaient notre Dieu, plein de chants qui louaient Dieu. Et même Ronald a pris un petit peu de temps pour dire des mots qui louent Dieu, qui sont les caractéristiques de Dieu. Il y a tellement de raisons pour que nous pouvons louer Dieu. Le psaume 103, il y a une belle petite liste que j'ai pris. Le psaume 103, le verset 3 à 10. « C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux Israélites. L'Éternel est compatissant. Il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rétribue pas selon nos fautes. » La louange à l'Éternel. Il veut être loué. Si tu pensais ne pas avoir quoi que ce soit à dire pour glorifier ton Dieu, ou si tu trouves que ta louange est toujours la même, alors tu peux utiliser cette liste dans Psaume 103. Moi, j'essaie toujours de trouver une nouvelle raison de plus pour louer Dieu. J'essaie de renouveler ma liste ou la louange que je fais à Dieu. La raison pour cela, c'est que ça me pousse à chercher. On a tendance à être plus facile à utiliser les mêmes mots pour louer notre Dieu. Mais si on cherche, Si on veut chercher à louer Dieu d'une nouvelle façon, à ce moment-là, on réfléchit. Et ça nous pousse à réfléchir à ce que je suis en train de faire. Pas juste de répéter et répéter les mêmes louanges. Dieu aime la louange. Dieu aime les louanges que nous apportons. Mais si nous voulons réfléchir à ce que nous disons, cherchez à essayer de trouver de nouvelles louanges à l'Éternel. Dans la deuxième partie de cette première du chapitre, les versets 5 à 8, « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'arrache à toutes mes frayeurs. » David continue à louer l'Éternel, mais cette fois-ci pour l'expérience dans sa vie. Lorsque l'on veut connaître quelqu'un, il faut entrer en relation avec cette personne. Et dans ces versets, nous voyons trois actions qui le montrent. « J'ai cherché l'Éternel, on regarde à lui, un malheureux crie. » L'auteur loue Dieu parce qu'il s'est approché et l'Éternel a répondu. « Il m'arrache de toutes mes frayeurs. » On resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Et au verset, « Et il sauve de toutes ses détresses. » David avait tué Goliath et se retrouve devant le roi. Je crois que cette situation est assez forte pour dire que David aurait pu croire que c'était la fin de sa vie. Est-ce que c'est votre raison de vie? Lorsque je parle d'une saison, est-ce que c'est votre saison? Est-ce que c'est votre saison de vie? Lorsque je parle de saison de vie, je veux parler d'une période où nous vivons certaines choses ou d'une certaine façon pendant un temps. Nous avons des saisons de vie joyeuses et des saisons de vie plus difficiles. L'encouragement de David est que dans toute saison de notre vie, l'Éternel répond. David a cherché, il a regardé, il a crié. Alors, maintenant, le verset 8 qui vient, et c'est comme un baume sur notre cœur. Je pense que vous le connaissez très bien. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Quelle promesse incroyable! Lorsque j'ai étudié ce texte, j'ai lu beaucoup d'interprétations pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire exactement ce texte. Est-ce que l'ange de l'Éternel, c'est quelque chose en particulier? Beaucoup de textes bibliques parallèles utilisent le même contexte. Certains utilisent un singulier, donc l'ange. D'autres vont utiliser le pluriel pour montrer l'armée céleste de Dieu. Alors, ce que je peux conclure de ce texte est que je peux louer Dieu car il nous protège. Il nous protège. Oui, la grammaire est importante ici. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Le pluriel, il protège ceux qui le craignent. À ce point-ci, je veux vous rappeler de quoi on parle lorsque la Bible utilise le mot « craindre ». On ne parle pas de la peur, on ne parle pas de craindre, d'avoir peur de Dieu, mais on parle plutôt de le respect, la soumission totale à sa volonté, l'obéissance à sa loi, par conséquent, la foi et l'amour envers lui. Ça, c'est la définition de craindre l'Éternel. Alors, ce que nous avons vu dans ce début de texte est que malgré les circonstances, nous sommes encouragés à nous présenter devant l'Éternel en le louant, à le louer parce qu'il répond, le louer parce qu'il nous protège. Les versets 9 à 15. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous, ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. » Le texte continue avec une instruction ou une sagesse pour ma vie. » Ici, le texte commence presque par un proverbe. Hein? Vous aurez remarqué la similitude de la première phrase du verset 12. « Venez, mes fils, écoutez-moi. » Avec collège-carrière, j'ai fait quelques études, et puis dans Proverbes, et souvent, la phrase comme une phrase comme celle-ci revient. « Venez, mes fils, écoutez-moi. Mon fils, écoute l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Il veut parler particulièrement à quelqu'un. Cette sagesse nous instruit comment agir face à notre Dieu. Ici, on peut voir la providence de Dieu, le Dieu présent dans la vie de celui qui le cherche. Voyez-vous les actions qui sont mentionnées? Goûtez, craignez, cherche, écoutez, préserve, écarte-toi, recherche. Dieu ne nous a pas appelés à être lâches dans nos vies. Il veut connaître ses enfants. Il veut te connaître. Et cela passe par toutes les actions mentionnées. La beauté de cela, c'est que la parole de Dieu dit qu'il répond. L'Éternel est bon. Rien ne manque. Ne manque d'aucun bien. Désire la vie pour voir le bonheur. Les versets 12 à 15 sont selon moi le centre de ce texte. L'auteur va donner une facette importante à la vie. Il exprime ce que nous voulons, la vie, et quoi en faire pour avoir le bonheur. Il y a juste une chose, c'est que les versets 14 et 15 semblent être faciles à dire, mais pas tant à faire. « Venez, mes fils, écoutez, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. » Écrit comme ça, c'est une belle promesse. C'est une belle façon de le dire. Mais est-ce que je suis capable de le vivre vraiment au jour le jour? Moi, la première phrase, « Préserve ta langue du mal. » Dans ma vie, oui, j'ai cette difficulté-là. Je ne sais pas si c'est la vôtre. Mais en partant, j'ai quelque chose à travailler. J'ai quelque chose à demander à Dieu. J'ai quelque chose à améliorer. On a toujours déjà parlé dans le dos de quelqu'un. Souvent pour se sentir mieux de nos propres fautes. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Wow! Le standard est élevé. Élevé! Qui peut le suivre? Vous vous dites, « Ah, c'est bien cool, mais c'est l'Ancienne Alliance. » Il y en a qui y ont pensé. C'est l'Ancien Testament. Maintenant, nous sommes sous Christ et nous avons de la souplesse. Eh bien non. Vous pouvez tourner dans 1 Pierre 3, 8 à 12, qui lit comme suit. « Enfin, ayez toutes les mêmes pensées. » Les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et poursuive et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. » Ouf! Ouais, on ne peut pas dire « Oh, c'était l'Ancien Testament ». Ouf! Le standard est repris par Pierre dans son enseignement sur les devoirs entre frères et sœurs dans l'Église. Cela devient plus difficile de balayer en dessous du tapis cette instruction. Elle est importante pour connaître et pour craindre l'Éternel. Cela passe par poursuivre la paix. Pas facile toujours de rechercher la paix dans toute situation, mais c'est à cela que nous sommes appelés. Rechercher la paix. Nous avons vu deux points. Le premier, que nous devons louer Dieu pour qui il est et parce qu'il répond. Et le deuxième point est que la crainte de craindre l'Éternel par la sagesse, qui est la recherche de la paix et la poursuivre. Les versets 16 à 23, le résultat de cette sagesse dans ma vie. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il arrache à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tout l'Éternel le délivre. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fait mourir le méchant et ceux qui haïssent le juste sont condamnables. L'Éternel libère l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se réfugient en lui échapperont à la condamnation. Cette dernière section de notre passage est celle qui m'a fait choisir ce texte. Elle est le résultat des deux premières sections, l'application de la louange et de la sagesse dans ma vie. Ce passage m'a apporté beaucoup de réconfort et de paix. Je me suis accroché à ces paroles. Les versets 16 et 17, je vais juste relire la première section et je vais inverser la verset 16 et 17 pour que nous comprenions bien le contexte. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il les arrache à toutes ses détresses. Donc, si on commence par le verset 17, la conséquence pour ceux qui ne recherchent pas la paix est dramatique. Dieu ne veut pas rien à voir avec eux. L'auteur va jusqu'à dire que l'Éternel va retrancher son souvenir de la terre. Tourner sa face donne une symbolique de présence. Donc on voit ici tout de suite que Dieu ne veut pas être en présence du mal. Il ne veut pas donner de place à ceux qui veulent le mal. Le contraste est fort. Dieu, créateur, qui ne veut pas être en présence de sa créature, qui elle, désire faire le mal. Est-ce qu'on réfléchit des fois à la gravité du péché dans nos vies? Le péché est très grave aux yeux de Dieu. Très grave. Heureusement, le verset suivant m'encourage grandement. Dieu n'a pas de vraies oreilles. Mais l'auteur va utiliser ces caractéristiques pour qu'on comprenne bien. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ici, l'auteur parle à ce moment difficile. Et on peut le voir au verset 19 dans l'expression « ceux qui ont le cœur brisé »,« ceux qui ont l'esprit dans l'abattement ». Le verbe « crie » est utilisé deux fois. Est-ce que votre cœur crie parfois? C'est un mot fort, « crier ». La situation est difficile et on vient devant Dieu en disant « je ne comprends pas ». Je vois dans ce texte que David a crié devant Dieu. Mais David n'en est pas resté là. Il va s'accrocher à la volonté de Dieu. Autant que Dieu ne veut rien avoir à faire avec le mal, autant il veut être proche de celui qui le craint. L'Éternel entend. L'Éternel est prêt. Il sauve. Durant l'épreuve, le moment est difficile. On semble tous voir en noir et pour un moment, on pourrait penser « je suis seul ». Mais le texte nous rassure. Au contraire, il entend nos cris. Il répond. Il les arrache à toutes ses détresses. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je veux juste vous mentionner ici que le texte ne dit pas qu'il va enlever l'épreuve, mais qu'il est là pour enlever le désespoir. Le verset 20 à 23 donne une bonne conclusion. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tout l'Éternel le délivre. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fait mourir les méchants, et ceux qui haïssent le juste sont condamnables. L'Éternel libère l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échapperont à la condamnation. C'est une conclusion pratique du fait que Dieu prend soin de ceux qui le craignent. L'auteur nous montre que dans ces versets que l'épreuve vient dans chacune de nos vies. Elle vient sur les justes et sur les méchants. Mais les promesses attachées sont bien différentes. L'épreuve des méchants les amène vers la condamnation et vers la mort. Il n'y a pas d'espoir pour une personne qui ne veut pas craindre l'Éternel. Mais pour le juste, il y a de magnifiques promesses. L'Éternel le délivre de l'épreuve. Il libère l'âme de ses serviteurs et ils ne sont pas condamnés. Il protège aussi le juste physiquement. Le verset 21, vous aurez vu une prophétie qui se réalise dans le Nouveau Testament à travers Christ. On peut le voir, les mots bien précis. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Je ne sais pas si vous aviez remarqué la similitude. L'auteur ne donne pas beaucoup de contexte pour cette prophétie. Mais nous la voyons réalisée dans le fait que le malheur a atteint le juste, que l'Éternel l'a délivré et que ses os n'ont pas été brisés. Quelle puissance et quel rappel que cette même puissance qui a été utile pour Christ est offerte à ceux qui craignent l'Éternel. J'aime beaucoup la dernière phrase. Ceux qui se réfugient en lui échapperont à la condamnation. Nous ne sommes plus coupables aux yeux de Dieu et nous sommes héritiers de ses promesses. Je me suis accroché à ce texte et à la vérité de celui-ci. J'ai pu expérimenter une paix. Dans l'épreuve, ce texte à garder mes yeux et mon attention à la bonne place. Je vous encourage à relire chez vous ce texte, à vous l'approprier, à l'utiliser dans vos épreuves. Évidemment, je vous encourage à craindre l'Éternel. Vous vous dites, pourquoi il a amené ceci en avant? Et je vous l'explique maintenant. J'aime beaucoup la musique et vous aurez deviné que j'ai écouté ce chant plusieurs fois. Le chant que je vais jouer juste après, c'est une interprétation par Brooklyn Tabernacle Choir. Ils reprennent ce psaume mot pour mot et la musique que moi je trouve, c'est que lorsqu'on chante une partie de la Bible, elle reste plus dans notre mémoire. Bon, pour moi en tout cas, je vous la fais écouter. Là, j'espère que tout va bien aller, ça devrait.
I sought the Lord, and He answered me.
M'a délivré de toutes les peurs. Ceux qui regardent à lui sont élevés, n'ont pas honte. L'homme pauvre crie. Et l'Éternel m'a entendu et il m'a sauvé de mes ennemis. Le Fils de Dieu entoure ses saints. Il les délivre. Magnifiez l'Éternel avec moi. Exaltons ensemble son nom. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Donc, c'est une interprétation. Le style de musique me convient et j'ai beaucoup aimé écouter ce psaume parce que pour les paroles surtout, pour ce qu'il voulait dire, pour ce qu'il apportait comme message. Pour ma part, je trouve que ce psaume illustre bien comment nous devrions nous approcher de Dieu dans la prière. Premièrement, en le louant pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait. Ensuite, en nous examinant pour voir l'état de notre cœur. Ensuite, crier à Dieu, tout en lui redonnant la gloire, en sachant qu'il écoute et que sa volonté, et que dans sa volonté, il veut nous délivrer. Il y aura des moments difficiles dans nos vies, mais les moments joyeux nous rappellent que nous avons passé au travers avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, magnifiez l'Éternel avec moi. Exaltons son nom ensemble. Amen.